plaisir de courtoisie. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en cette deuxième partie du Libre Journal des Amitiés Françaises. Je rappelle que nous avons la chance d'avoir Laurent au standard qui sera très heureux de prendre vos questions, vos messages que nous proposerons à notre invité. Vous pouvez le faire par téléphone 01 46 51 00 85 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique courtoisie@rc.fr courtoisie@rc.fr. Nous abordons donc cette deuxième partie. Nous recevions il y a quelques mois Éric Anceau, et qui publie et dirige cette œuvre monumentale qu'est La Nouvelle Histoire de France aux éditions passées, composée sur plus de 1000 pages. Nous retrouvons 100 historiens, 100 des meilleurs spécialistes qui racontent justement la France. Cet ouvrage s'efforce avec succès de ne pas considérer l'histoire de France comme un champ de bataille où s'affrontent les partis pris et les idéologies, et nous présente donc cette histoire de Vercingétorix jusqu'aux Jeux Olympiques de 2024 sans sombrer dans ce travers. Et durant notre premier entretien avec Éric Anceau, il nous avait ainsi expliqué comment sa conception de l'histoire l'avait conduit à diriger et construire cet ouvrage remarquable et particulièrement complet. Nous étions convenus ensemble de consacrer un certain nombre d'émissions sur un choix de chapitres et d'auteurs de cette histoire, ce que nous allons faire jusqu'à la fin de l'année en recevant régulièrement un choix d'auteurs des chapitres de ce livre. Et ce soir, eh bien, nous commençons tout naturellement par le maître de lieu, donc Éric Anceau lui-même, qui a écrit un certain nombre de chapitres, dont deux chapitres qui sont consacrés à particulièrement sa spécialité historique, le Deuxième Empire et puis bien sûr Napoléon III. Et cette Deuxième République fera le sujet de notre émission, car il s'agit d'un épisode important de notre histoire, mais là encore méconnue sans doute pour la brièveté de cette République, à peu près 3 années, mais 3 années quand même importantes, car elle porte le germe de sérieuses conséquences pour notre destin. 3 années qui sont marquées aussi par des personnages de talent dont on se souvient du nom, mais assez peu, il faut le dire, de l'œuvre, et de l'œuvre politique, notamment quand on pense au rôle de Lamartine dans cette Deuxième République. Eh bien, nous allons les évoquer. Nous allons évoquer ce soir cette Deuxième République grâce à Éric Anceau. Éric Anceau, bonsoir.
Bonsoir Thierry Delcourt, merci pour votre fidélité.
Merci, j'ai quasiment mon rond de serviette. D'être avec nous ce soir en direct, parce que je suis très sensible à votre présence, Éric Anceau. Vous rentrez d'un long voyage et vous êtes victime très directement du décalage horaire qui est important et qui est plus difficile d'ailleurs de s'en sortir dans le sens ouest-est que dans l'autre sens. Donc voilà, merci beaucoup d'être avec nous pour parler.
Oui, je peux peut-être dire quelques mots de ce déplacement.
Exactement, je voulais vous interroger sur l'accueil que vous avez réservé la belle province, Éric Anceau, parce que vous y alliez justement invité. Oui. Dans le cadre de cette publication « Nouvelle histoire de France » aux éditions passées composées.
Oui, j'étais invité par le consul général du Québec et mes collègues universitaires québécois. Le voyage a duré 4 jours et il a été organisé de main de maître par mon collègue Éric Bédard, qui est professeur à TELUC à Montréal et qui est l'un des co-auteurs, c'est l'un des 100 historiens et historiennes dont vous avez parlé. Je lui ai demandé le chapitre « Les Amériques et la France ». Et alors, c'était très émouvant parce que vous le savez sans doute, je suis gaulliste et nous nous apprêtons à fêter le 60e anniversaire du Vive le Québec libre du général de Gaulle. Et il se trouve qu'actuellement, donc, nos amis québécois vont ouvrir un musée d'histoire de la nation du Québec. Et ils m'ont demandé, pour tout le personnel du musée, de faire une présentation. Comment peut-on faire un récit national, dégager des polémiques? J'étais aussi l'invité d'honneur du Salon du Livre, l'invité d'honneur des Rendez-vous de l'Histoire de Québec. Et puis j'ai fait une conférence aussi sur la laïcité devant la Société Saint-Jean-Baptiste, au moment où la laïcité québécoise est actuellement extrêmement attaquée, puisqu'elle se trouve devant la Cour suprême d'Ottawa et que possiblement, eh bien, elle sera condamnée en juin prochain. Donc, je suis de tout cœur avec et je tenais à les soutenir nos amis québécois. Et je dirais qu'il y a la clause de sauvegarde et l'autonomie québécoise qui sont aussi menacées. Nous sommes peut-être à un tournant historique, il faut le savoir, vos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais en juin prochain. Et donc, voilà, ce voyage m'était cher à plus d'un titre.
Mais en quoi, pardonnez-moi, je vous propose de passer un peu de temps, quand même, de profiter justement du Éric Anceau de ce voyage québécois. Puis je vous présenterai après ces quelques questions sur le Québec. Je vous représenterai aux auditeurs de Radio Courtoisie qui vous connaissent bien néanmoins. Et en quoi cette laïcité et cette autonomie québécoise sont menacées?
Alors je dirais, c'est un effet boule de neige. L'autonomie en elle-même n'était pas menacée, mais l'autonomie, c'est un peu complexe, hein, dans le détail. L'autonomie est menacée par l'activation de la clause de sauvegarde, et l'activation de la clause de sauvegarde a lieu parce que la laïcité québécoise se trouve devant la Cour suprême. Alors j'explique à vos auditeurs en quelques mots. En 2019, à l'initiative du parti alors au pouvoir, le Parti québécois, parti fondé par René Lévesque, hein, et bon, inutile de présenter bien évidemment René Lévesque, eh bien, a été adoptée cette loi de laïcité qui ressemble un petit peu, toute chose égale par ailleurs, à notre loi de séparation des Églises et de l'État de 1905. Elle interdit par exemple le port des signes ostentatoires aux agents de la fonction publique. Or là, eh bien, dans les établissements scolaires, il y a le port de vêtements religieux qui ont lieu. En particulier islam. Et donc, le gouvernement québécois a activé la loi. Et il se trouve que le gouvernement fédéral, nous sommes bien évidemment dans un État fédéral, hein, le Canada, dépend d'une constitution, la constitution de 1982. C'est ce qu'on appelle le rapatriement au Canada de la constitution. Et c'est une constitution qui met en œuvre une laïcité radicalement différente de la laïcité française ou de la laïcité québécoise, puisqu'elle protège les communautés avant tout. Donc, si vous voulez, c'est le multiculturalisme, c'est le communautarisme. Et donc, bien évidemment, pour le gouvernement fédéral, cette loi est intolérable. Et donc, un certain nombre d'associations ont poursuivi devant la Cour suprême, eh bien, le gouvernement québécois. Alors, le gouvernement québécois a une arme qui s'appelle la clause de sauvegarde, qui est dans la Constitution de 1982, mais cette clause de sauvegarde est à son tour attaquée. Et si la clause de sauvegarde venait à sauter, en plus de la laïcité, eh bien, c'est l'autonomie du Québec dans le cadre de l'État fédéral qui serait menacée. Et donc là, ça serait absolument inédit depuis 1867, depuis le statut en fait du Commonwealth. Donc possiblement, peut-être devant nous, un troisième référendum. Vous savez, il y a eu le référendum de 1980 qui a échoué, hein. Les Québécois voulaient leur indépendance. Il y a eu un référendum en 1995 et il a échoué de très très peu, très très peu.
Et pardonnez-moi, je vous interromps, Éric Anceau,
Oui.
il a échoué de tellement peu que on annonçait l'indépendance
Oui.
au début, hein, au début du dépouillement,
Oui.
et au fur et à mesure du
Exactement.
dépouillement, Montréal a fait basculer le vote, mais rien du tout contre cette
Vous avez entièrement
indépendance. Ça
raison.
s'est
Alors,
joué, c'était affreux. Pour les partisans de
Jacques Parizeau, qui
l'indépendance,
à
c'est
l'époque.
affreux, hein.
Tout à fait. Jacques Parizeau, qui à l'époque était le premier ministre, lui aussi du Parti québécois, qui avait mis en œuvre ce référendum, on lui a beaucoup reproché d'avoir dit qu'il y avait deux choses qui avaient fait basculer dans la dernière ligne droite le référendum vers le non. C'est d'une part les moyens utilisés par Ottawa, donc le gouvernement central, sans commune mesure avec ce dont disposaient les Québécois, donc une propagande, et d'autre part le vote des minorités, mais le vote aussi communautaire. Et vous évoquez la ville de Montréal. C'est vrai
Oui.
que Montréal est une ville très particulière au Québec, parce que moi j'aime beaucoup Montréal, j'en viens, hein, j'ai passé une partie de mon séjour là-bas, mais c'est une ville qui dénote par rapport au restant du
Du
Québec.
Québec, oui.
Et voilà, c'est une grande métropole nord-américaine. Et donc c'est elle sans doute qui a fait effectivement basculer ce deuxième référendum.
Mais un troisième référendum pourrait faire basculer du côté de l'indépendance? Quel est
Ah,
l'état
je ne sais pas.
du sentiment québécois actuellement?
Alors, deux choses, si vous voulez. Je ressens dans la jeunesse une très grande ferveur nationale. Vous savez que bon, chez nous, le mot nationaliste est un gros mot, mais là-bas, au Québec, il l'est beaucoup moins. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils m'ont invité. C'est pour présenter l'histoire de la nation française et voir comment on peut faire une histoire de la nation québécoise sur le même modèle. Ils l'ont en chantier. Et donc, je ressens cette grande ferveur de la part de la jeunesse, mais en même temps, bien évidemment, la population québécoise a évolué du fait d'arriver de nouveau. Alors attention, je ne critique pas non plus, mais ils en ont besoin également pour leur marché du travail, mais de nouveaux immigrants qui sont moins bien intégrés. Et Justin Trudeau en particulier, qui a fait de la Constitution de 1982 et du multiculturalisme un alpha et un oméga, voulait voilà, que cette population québécoise soit très très mêlée. Et il y a une résistance, bien évidemment, dans la population québécoise qui est très, très forte. Alors, qu'adviendrait-il en cas de troisième référendum? C'est très compliqué, je ne peux pas vous dire. Ça serait peut-être serré, hein, effectivement. Donc voilà, et dont nos amis québécois à défendre leur identité dans l'identité canadienne. Hein, et ils méritent à minima. Parce que c'est une très belle identité, une identité qui est liée à la métropole. Hein. À plusieurs reprises, ils ont utilisé, et moi j'avais la larme à l'œil quand ils disaient ça, la métropole, la France, nous sommes vos cousins. Eh bien, je crois qu'il faut les aider. Et donc, c'était un peu aussi l'un des buts de mon voyage.
Peut-être aussi pourrait-il nous aider à ce que nous restions, nous, conscients de notre propre identité. Parce qu'eux, ils ont
Alors, ils
su
nous aident pour la
défendre,
langue.
hein. Ils ont su
Ils nous aident
défendre
pour
leur
la
propre
langue.
culture, oui. Mais pour le reste aussi,
Bien sûr. Non, mais j'entends qu'ils
ils
sont
sont
beaucoup
fiers
plus
d'être
vigilants.
Québécois. Nous ne sommes, nous, c'est le sentiment, la fierté d'être français chez nous a quand même
Bien sûr, bien sûr.
considérablement diminué. Alors qu'eux ont
Vous avez
su
raison.
conserver cette propre fierté. Peut-être que là, ils peuvent nous apporter quelque chose.
C'est
Non?
vrai, mais ils ne nous donnent pas de leçons. J'aime beaucoup les Québécois, ce sont des gens modestes, des gens pacifiques, qui ont une grande foi en nous et qui, en revanche, nous disent que voilà, n'abandonnons pas notre langue. Quand le président de la République parle à Donald Trump, qu'il utilise l'anglais, moi personnellement, ça ne me gêne pas, mais qu'après, dans la conférence de presse, il n'utilise pas le français, mais qu'il fasse sa conférence de presse en anglais, je suis profondément gêné. Et les Québécois le sont aussi. Et vous savez que les Québécois, eh bien, ils francisent un très grand nombre de termes anglo-saxons que nous, nous avons importés. Et je trouve que c'est fort dommage. Je suis un grand défenseur de la francophonie.
Et vous n'avez pas le sentiment, Éric Anceau, que les plus grands défenseurs de la francophonie maintenant sont à l'étranger, au Québec, et
Si,
on peut
si.
évoluer, penser à Boulem Sansal, par exemple, avec des interviews formidables, d'ailleurs, dans le journal du dimanche de ce matin, une interview incroyable de Boulem Sansal et de Villiers. Et tout cet amour de la France et de la langue française, on a l'impression qu'on maintenant on trouve ça à l'étranger et que chez nous, bah, à part quelques individualités, bien sûr.
Oui. Oui, alors bon, on a des institutions, au premier rang desquelles l'Académie française, qui, Dieu merci, existe encore, mais que certains souhaiteraient ringardiser. Moi, bien évidemment, je ne la ringardise pas, heureusement qu'elle est là. Je m'empresse d'ajouter qu'après avoir critiqué le président Macron, pour moi, alors il a fait énormément d'erreurs durant ces deux quinquennats, mais en revanche, il laissera une œuvre, et j'invite quand même vos auditeurs à aller la voir s'ils ne la connaissent pas encore, c'est la Cité internationale de la France. Francophonie à Villers-Cotterêts. Et bon, c'est quelque chose qu'il portait de très loin, puisqu'il l'évoquait déjà dans son livre Révolution avant d'être élu président de la République. Et ça, c'est quand même une vraie réussite. Hein. Je m'empresse de l'ajouter. Et lorsque je suis intervenu au futur musée d'histoire nationale du Québec, hein, ils m'ont demandé à quel musée français de quel musée il fallait se rapprocher pour faire un jumelage. Et je les ai d'emblée orientés vers la cité internationale de la francophonie de Villers-Cotterêts, parce que je trouve que le symbole est très fort.
Alors, Éric Anceau, je vais quand même, si vous me permettez, vous représenter, au moins dans les quelques lignes, aux auditeurs de Radio Courtoisie qui vous connaissent bien. Vous êtes bien sûr historien, vous êtes un spécialiste reconnu du Second Empire et de Napoléon III, Ainsi, on l'a compris en vous écoutant sur la problématique de la laïcité au Québec et au Canada, tel que vous avez pu le constater vous-même. Je précise encore que vous êtes professeur des universités en histoire politique et sociale de la France et de l'Europe contemporaine à l'Université de Lorraine. Vous avez écrit de nombreux ouvrages naturellement sur tous ces thèmes. Vous avez d'ailleurs obtenu le Grand Prix de la Fondation Napoléon pour tous vos ouvrages sur le Second Empire et plus particulièrement le prix Guizot de l'Académie française en 2018, parmi d'autres, bien sûr, d'autres prix. Je ne peux citer tous vos ouvrages. Alors, bien sûr, celui pour lequel nous vous recevons, cet ouvrage collectif que vous avez dirigé, vous pourriez nous en redire d'ailleurs en introduction, avant que nous évoquions la Deuxième République, la Genèse, hein, tellement c'est un ouvrage intéressant et important. Donc, cette nouvelle histoire de France aux éditions Passé composé, vous aviez déjà publié une histoire de la nation française, du mythe des origines à nos jours, chez Talendier tout récemment, Gambetta aussi, chez Topuf, hein, ça aussi c'est tout récent, et puis naturellement de nombreuses publications sur Napoléon III, l'Empire libéral aux éditions SPM en 2017, et Napoléon III, un Saint-Simon à cheval. Souhaitez-vous préciser d'autres ouvrages?
Oui, je peux peut-être rappeler effectivement les tenants et les aboutissants, mais très brièvement, je vous
rassure
de
nous rappeler
ce
quand
livre.
Même, parce que
L'idée, si vous voulez, on l'appelait Nouvelle Histoire de France pour trois raisons très rapidement, mais il y en a une principale, c'est que, voilà, pendant très longtemps, on a été en France dans le roman national. Alors, le roman national, c'était bien tant que nous n'étions pas une nation. Il fallait donner un grand récit qui séduise les petits-enfants et qui leur fasse comprendre pourquoi il fallait chérir la patrie. C'est ce que disait Ernest Lavis sous la Troisième République, mais aujourd'hui, le roman national ne peut plus passer parce qu'on voit bien, d'une part, qu'on ne prend pas tout le monde dans le récit et que donc ça crée des crispations très graves et que d'autre part, il y a une part de mensonges profonds et l'universitaire ne peut pas cautionner ça. Et puis, dans un deuxième temps, dans les années 60-70, on a déconstruit tout ça pour mettre les femmes, qui avaient leur place quand même, vous en conviendrez toutes et tous, dans le récit national, les enfants qui n'y figuraient pas, les populations immigrées que nous avons progressivement assimilées ou intégrées dans ce récit, les pages glorieuses, mais aussi les pages sombres qui étaient systématiquement gommées. Et on a poussé le bouchon très, très loin. C'est-à-dire qu'on a tout déconstruit, y compris la nation. Dans les années 80-90, vous avez des historiens qui disaient que la nation, c'était un concept qui avait été créé par l'État pour asservir les Français. Donc c'est bien évidemment complètement faux. C'est un autre roman antinational pour le coup. Et moi, ce que j'ai voulu faire avec les 100 plus grands historiennes et historiens, c'est un récit surplombant qui fasse aimer notre pays, parce que les pages glorieuses, et je pense que tous vos auditeurs seront d'accord avec moi, sont beaucoup plus nombreuses que les pages sombres, mais qui ne cachent pas les pages sombres de notre histoire. Il y en a. Et pour embarquer tout le monde, il faut également les donner. Alors, nouvelle également, parce qu'il y a du renouvellement historiographique dont il fallait faire état depuis les dernières histoires. Et puis nouvelle, et je termine en un mot avec cela, par le plan, parce que c'est la première fois qu'on a un tout-en-un, en fait, en 1100 pages, hein, c'est énorme, un grand récit en 250 pages qui part des Francs et qui va jusqu'au temps présent, les Gilets jaunes, hein, vous avez évoqué les Jeux Olympiques, la crise institutionnelle que nous traversons, et puis trois parties thématiques, ça n'avait jamais été présenté sous cette forme-là que de donner un grand récit sous forme thématique. Donc, elle se veut, cette histoire de France, à la fois dépassionnée, mais passionnante. Elle se veut encyclopédique, car je crois que nous n'avons rien oublié, mais également ludique, parce qu'on peut butiner au gré de ses envies.
Alors, une partie qui est chronologique, dont d'ailleurs nous allons profiter ce soir, puisque cette chapitre consacré à la Deuxième République appartient à la partie chronologique, hein, de votre nouvelle histoire de France, mais il y a aussi des parties thématiques.
Oui, oui. Trois parties thématiques sur quatre, 75 chapitres sur 100 sont thématiques.
J'avais une question à vous poser, Éric Anceau. C'est vous qui avez choisi les parties thématiques? Parce que la chronologie, eh bien, elle est classique, elle déroule, bien entendu, les événements principaux, les parties principales de notre histoire, mais les thématiques, est-ce que c'est vous qui avez choisi
Oui, alors j'ai absolument tout choisi. C'est-à-dire qu'en fait, voilà comment j'ai procédé en deux
Oui.
mots. J'ai listé 100 thématiques, mais y compris dans la partie chronologique, parce qu'il y a des choix qui sont opérés. Je vous donne
Oui.
un exemple. La Deuxième Guerre mondiale, tout le monde en conviendra, est une période particulièrement clé de notre histoire, et elle occupe une grande place dans cette nouvelle histoire de France. Je voulais qu'il y ait trois chapitres et pas un seul. D'autres historiens n'en auraient accordé qu'un seul. Moi, j'en ai voulu trois. Donc, il y a un grand chapitre surplombant qui traite de l'ensemble de la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez un chapitre qui est intitulé Collaboration au pluriel, parce qu'il ne s'agit pas d'essentialiser la collaboration, il y en a plusieurs. Et un chapitre qui s'appelle Résistance au pluriel. Donc vous voyez, il y a des choix aussi que j'ai faits. Donc 100 thématiques, qu'après j'ai ventilées en quatre grandes parties. J'ai choisi mes auteurs, c'est moi qui ai choisi solitairement tous mes auteurs. Je voulais les meilleurs, je les ai quasiment tous eus. Et la seule chose, je leur ai donné une petite marge de manœuvre, parce qu'à la fin de chaque chapitre, vous avez ce que j'appelle des éclairages. Alors ce sont des
C'est ça.
biographies. Je crois qu'on parlera tout à l'heure sur le chapitre Deuxième République d'un certain nombre de figures qu'on a retenues.
Oui.
Mais ça peut être par exemple des batailles, ça peut être des traités de paix, ça peut être des livres, ça peut être une chanson populaire, ça peut être un film. Donc pour donner un petit peu de corps, de chair au récit et au chapitre. Et là, ce sont les auteurs par contre qui ont choisi les éclairages.
Les
Je les ai
éclairages.
laissés libres. J'en ai rajouté quelques-uns parce que je trouvais qu'au bout du compte, il manquait quelques éléments et je ne voulais pas qu'on nous le reproche. Mais globalement, ils les ont choisis.
Alors, sur ce chapitre consacré à la Deuxième République, effectivement, vos deux écl... les trois éclairages, pardon, vous les avez consacrés à Lamartine, à Victor Schœlcher et au déroulement du coup d'État.
Et
Voilà.
bien
Donc,
sûr.
comment se passait le coup d'État, en effet, du futur Napoléon III de Louis-Napoléon Bonaparte. Lamartine, Victor Schœlcher, pour quelle raison on comprend le déroulement du. Que vous insistiez naturellement sur le déroulement du coup d'État, mais Lamartine Schœlcher, les raisons qui vous ont amené à choisir ces
Oui, alors il y
deux
avait beaucoup, si vous
éclairages?
voulez, de personnages qui étaient possibles, hein, bien évidemment. Alors, il a fallu faire des choix. Je m'empresse d'ajouter, parce que notre ouvrage est kaléidoscopique et bien évidemment un chapitre répond à un autre, que par exemple, j'aurais pu mettre George Sand. George Sand est la première femme qui, en démocratie, en France, exerce un rôle politique. Elle a été la conseillère principale du ministre de l'Intérieur, Ledru Rollin. Mais George Sand est présente déjà dans un autre chapitre, le chapitre littérature. Donc nous n'allions pas lui consacrer de l'éclairage. Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, je le traite dans l'un des autres chapitres que je me suis réservé, qui est le chapitre Second Empire.
Oui, dont nous traiterons.
Oui, pardon?
Dont nous traiterons ensemble,
Oui, oui,
Eric,
oui. Et
hein,
donc,
bien sûr.
c'est là que vous avez sa biographie. Et donc, Lamartine et Schœlcher, eux, il était plus difficile de les mettre ailleurs. Ils ont vraiment leur place dans ce chapitre-là. Je pense qu'on va voir pourquoi dans un instant. Et donc, il fallait qu'ils y soient indéniablement. Ils sont peut-être un peu oubliés, hein, ou on les connaît de nom, mais on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Et il était très important que nos concitoyens, nos compatriotes, sachent ce qu'ils ont fait.
Et surtout que Schœlcher revient, est revenu, bien involontairement d'ailleurs, dans le devant de l'actualité avec l'affaire BLM.
Exactement,
Donc,
et avec les
ouais.
déboulonnages de statues,
De
parce
ses
que.
statuts, on aurait pu imaginer qu'il serait le dernier à être déboulonné, eh bien non, eh bien non,
Mais
donc...
oui, parce que, alors figurez-vous qu'on l'accuse, alors c'est quand même lui qui a, on va le rappeler pour vos auditeurs,
Oui.
aboli l'esclavage en France, ça n'est pas rien, mais on l'accuse d'avoir été un blanc, donc ça
Ça, c'est
c'est
grave.
un facteur
Non, mais
aggravant
ça, c'est très
aujourd'hui.
grave.
Ah oui, c'est grave,
Oui,
c'est
c'est
grave.
très grave.
On l'accuse d'une forme de paternalisme. Il se serait comporté avec les populations des territoires d'outre-mer en paternaliste, et ça, c'est pas bien non plus. Et donc, alors je m'empresse de l'ajouter, ça a choqué énormément l'immense majorité de nos compatriotes de Guadeloupe, de Martinique, où il avait des statues. Hein,
Oui.
mais je rappelle, il y a une ville qui s'appelle Schœlcher, quand même, en Guadeloupe. Je rappelle qu'il a des statues, je rappelle qu'il a une université qui porte son nom. Et donc, nos compatriotes Guadeloupéens et Martiniquais ont été très choqués, mais pour certains, qu'ils soient blancs d'ailleurs ou noirs, eh bien non, on ne peut pas l'honorer parce que voilà, c'est un blanc. C'est pas un blanc qui aurait dû abolir l'esclavage. Ça rentre pas dans les cadres. Voilà où on en est. C'est quand même grave.
Il a pourtant été élu député de la Guadeloupe, c'est ce qu'on apprend. Hein,
de la Guadeloupe et de la Martinique.
Et de la Martinique réunie. Éric Anceau, je vous propose donc que nous rentrions dans cette histoire, dans cet épisode court, mais important, de notre histoire, qui est l'histoire de la Deuxième République. J'aimerais lire quelques lignes d'introduction, si vous voulez bien, de votre chapitre. Et puis après, nous vous questionnerons sur ce sujet. Voici ce que vous écrivez. Dans l'histoire de nos républiques, la deuxième du nom a mauvaise réputation. Il lui est reproché de ne pas avoir su tenir ses promesses initiales et d'avoir sombré rapidement. Le manque d'envergure de ses dirigeants aurait préparé la catastrophe finale. Au lendemain du coup d'État du 2 décembre 1851, dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Marx compare ainsi cruellement les 48 arts aux hommes de la Grande Révolution. Voici ce qu'écrit Marx. Hegel fait quelque part cette remarque que tous les grands événements et personnages historiques se répètent pour ainsi dire deux fois. Il a oublié d'ajouter la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce. Caussidière pour Danton, Louis Blanc pour Robespierre, la montagne de 1848 à 1851 pour la montagne de 1793 à 1795, le neveu, donc Louis-Napoléon Bonaparte, pour l'oncle Napoléon. Vous êtes d'accord avec, j'imagine que si vous citez ainsi Marx, dont j'ignorais qu'il avait écrit en effet sur cette... Sur le coup d'État et sur cette Deuxième République. Vous êtes d'accord avec son analyse sur le manque d'envergure des dirigeants de la Deuxième République comme cause ?
Pas du tout.
C'est ça, on est surpris parce que ce n'est pas le sentiment qu'on a en lisant votre chapitre.
C'est une légende noire. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des erreurs. Ça explique pourquoi le régime ne dure que 3 ans et demi d'ailleurs et pas plus.
Oui.
Et qu'il se termine par un coup d'État, on l'évoquera. Mais malgré tout, il y a une grandeur dans ce régime. Marx le détestait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il se termine par un coup d'État et il estime que les dirigeants n'ont pas su prévenir le coup d'État, n'ont pas su l'empêcher. Mmh. La citation que vous citez, en fait, est extraite d'un livre qui s'appelle « Le coup d'État » de Louis Bonaparte, et ce Louis Bonaparte, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, c'est le futur Napoléon III que Karl Marx détestait, bien évidemment. Et c'est cette lecture qu'il donne. Alors, Karl Marx, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui a profondément de culture, mais c'est un homme de parti pris. Et puis, c'est également quelqu'un qui n'a pas le recul. C'est-à-dire qu'il écrit au moment du coup d'État. Nous avons le recul et on peut dire qu'il y a des très, très grandes choses qui ont été faites par cette Deuxième République. On va les évoquer. Mais qu'il y a un vice. Alors, je commence par ce vice. C'est la Constitution. C'est une constitution bâtarde et qui va donner en fait des bâtons pour se faire battre, qui va permettre à celui qui était à sa tête en fait, d'y mettre un terme par un coup d'État parce qu'il n'y avait pas d'autre solution de sortir d'une crise gravissime dans laquelle on était arrivé en 1851. Il n'y avait pas de solution pour lui.
Pour Louis-Napoléon.
Pour la majorité de ses adversaires aussi, on le verra.
Oui. La question que je souhaitais vous poser d'ailleurs, ce que nous retenons de cette Deuxième République, c'est que Louis-Napoléon fait son coup d'État pour pouvoir, en quelque sorte, poursuivre son mandat de président, puisque exactement. La Constitution ne lui permettait pas de se présenter une deuxième fois, donc il fait ce coup d'État. Si la Constitution, vous allez nous expliquer pourquoi la Constitution n'a pas pu être modifiée, parce qu'il y avait quand même une majorité, mais insuffisante, pour autoriser que Napoléon se représente. Pensez-vous que si Napoléon avait pu se représenter, être élu président, il aurait quand même fait un coup d'État un moment ou un autre pour aller vers l'Empire ? Question qu'on peut se poser. Qu'en pensez-vous, Éric Anceau ?
Oui, alors je ne suis pas devin et je ne risquerai pas sur ce terrain, d'autant plus qu'il a écrit, durant ses années de jeunesse, tout et son contraire sur le sujet, en disant à certains moments qu'il se satisferait d'une république consulaire comme celle qu'avait mis en place son oncle au lendemain du coup d'État du 18 et 19 Brumaire, c'était le 9 et 10 novembre 1799, c'est le grand consulat. Mais il disait par ailleurs dans d'autres écrits qu'en fait, ce grand consulat débouchait naturellement sur l'Empire. C'est ce qu'il a fait lui-même, parce qu'il y a une similitude, bien évidemment,
Oui.
l'histoire rejoue entre ce qui s'est joué au début du siècle avec son oncle Napoléon et ce qu'il réalisera lui-même. Donc c'est très très dur de savoir si la Constitution avait été différente, ce qu'il aurait fait. Et je ne me risquerai pas sur ce terme. Mais ce qui est certain, vous avez touché du doigt l'élément le plus sensible, c'est qu'en fait, les pères constituants de la Deuxième République, au premier rang desquels Tocqueville, n'ont pas su trancher. Ils ont voulu une constitution copiée sur celle des États-Unis d'Amérique, avec un mandat court du président, mandat de 4 ans, c'est encore le cas aujourd'hui aux États-Unis, un président qui serait élu au suffrage universel masculin. Ils ont hésité sur direct et indirect. Première erreur, finalement, ils ont, la procédure est complexe, mais voulu que ça soit le suffrage direct. Alors pourquoi erreur? Parce que ça a donné une aura, une faculté au chef de l'État, au président de la République, que n'avait aucun des autres personnages de la Deuxième République, en l'empêchant de se représenter. Il lui était interdit, alors qu'il était très populaire, de briguer un deuxième mandat. Au terme de son premier mandat, il devait s'effacer. Et pour réviser la Constitution, vous l'avez dit tout à l'heure, eh bien, le processus était extrêmement long et il fallait qualifié des 2/3 et plusieurs votes successifs. Et donc, bah, c'était quasi impossible de la réviser. Et donc, on a été au coup d'État. J'ajoute qu'une partie de la majorité préparait parallèlement un coup d'État. Donc, la partie orléaniste de l'Assemblée. Et en fait, ce sont les Républicains qui se sont trouvés pris en étau, alors que c'est eux qui avaient rédigé la Constitution. Ça s'est retourné contre eux, si vous voulez, complètement paradoxal, entre un coup d'État que préparait la majorité monarchiste, qui a échoué, qui a avorté, et un coup d'État qui a réussi, réalisé par le président de la République, qui lui-même n'était pas républicain, il était bonapartiste, c'était Louis-Napoléon Bonaparte. Une république complètement paradoxale, pour résumer.
C'est Louis-Napoléon Bonaparte a pris les monarchistes de vitesse, en quelque sorte. Si ce n'avait pas été
Exactement.
lui, ça aurait sans doute été la restauration de la monarchie, probablement,
Peut-être,
oui,
oui,
peut-être.
peut-être, ou la mise en place d'un autre descendant d'une dynastie à la tête de la République. On a pu parler du duc d'Aumale, par exemple, ou du prince de
Oui.
Joinville, qui étaient deux des fils de Louis-Philippe, parti lui-même en exil. Donc on venait de chasser le roi des Français, et certains envisageaient de faire élire à la tête de cette République l'un de ses fils, l'un de ses rejetons. Donc vous voyez, on était quand même dans le flou le plus complet.
Alors je vous propose de commencer par le commencement, si vous le voulez bien, Éric Anceau, tel que vous le faites dans ce chapitre consacré à la Deuxième République, chapitre qui appartient à cette formidable nouvelle Histoire de France aux éditions Passé Composé, chapitre donc que vous avez écrit puisque vous êtes un spécialiste de cette période de l'histoire. Je vous propose que vous nous présentiez les causes de la Révolution qui emporte de manière très surprenante, personne ne s'y attendait, hein, en quelques jours, cette monarchie de juillet. Quelles sont les causes et comment se déroulent ces 3 journées insurrectionnelles, seulement 3 jours, hein,
Oui.
qui mettent fin à ce régime. Alors, nous vous écoutons pour les
Alors,
causes, en fait,
je
hein.
dirais, je nuancerai un tout petit peu le fait que personne ne s'y
Oui.
attendait, parce qu'il y a des esprits lucides. Mais là où
Oui.
vous avez raison, c'est que globalement, les élites, comme souvent dans notre pays, j'ai publié un livre sur les élites des Lumières au grand confinement où je montre qu'elles se trompent très souvent.
Oui.
La majorité des élites n'ont pas vu venir la révolution, donc vous avez entièrement raison. Et l'immense masse de la population française, qui n'était à l'époque bien évidemment pas aussi bien informée qu'elle ne l'est aujourd'hui, avec une part d'analphabétisme très prononcée, n'a absolument pas pu venir, elle aussi, cette révolution. Alors simplement, on citait Tocqueville, vous avez cité Lamartine, eux disaient, nous nous endormons sur un volcan. Et eux avaient vu qu'on allait dans le mur et que possiblement une révolution était au bout. Alors pourquoi y a-t-il eu cette révolution? Pour différentes raisons. D'abord, une crise économique et sociale absolument terrible. C'est la pire crise économique et sociale du premier 19e siècle, avec un taux de chômage phénoménal, des caisses de l'État qui sont vides. Une crise politique avec un certain nombre de scandales qui touchent des ministres du roi condamnés pour concussion, pour affairisme. Donc ça, c'est quand même gravissime. Et puis, un principal ministre qui s'appelle François Guizot, Alors, dont j'ai revalorisé quand même dans mon histoire de la nation française le rôle. Et un petit scoop pour vos auditeurs, le prochain livre que je ferai paraître, je veux m'inviter dans le débat de l'élection présidentielle de l'an prochain, ça sera Qu'est-ce qu'un homme ou une femme d'État? Parce que je veux montrer que nous n'en avons plus aujourd'hui, mais il y aura François Guizot. Parce que François Guizot, c'est l'un des pères de la nation française, il faut le savoir. En revanche, il a été très peu lucide dans cette affaire, il était très psychorigide, très imbu de lui-même. Imaginez que plus tard il publiera ses mémoires et il les appellera Mémoires pour servir mes contemporains et pour les édifier sur notre époque. Donc quand même, c'est pas modeste, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en fait, il a refusé d'élargir le droit de suffrage. Et à l'époque, donc, il avait eu cette formule à la tribune de la Chambre, il avait dit. Enrichissez-vous par le travail et par l'épargne et vous accéderez au suffrage, mais sinon vous ne méritez pas de voter. En d'autres termes, si vous êtes pauvre, hors de question que vous votiez. Donc il était extrêmement impopulaire. À l'époque en France, c'est un suffrage ultra-censitaire. Hein, je vais donner un chiffre qui va parler à vos auditeurs. Hein. Il y a 37 millions de Français en 1848 et vous avez 245 000 électeurs. Donc, je ne sais pas si vous
Ah
vous rendez
oui,
compte,
c'est
245 000 électeurs pour 37 millions de Français. Et il y a une vague de
Pardonnez-moi, Éric
fond.
Anceau,
Oui,
il se
oui, oui.
défiait du vote démocratique. Souvent, le vote démocratique est plus conservateur qu'on l'imagine. Il se défiait de ce vote, d'un vote
Oui,
démocratique. Qu'est-ce qu'il est.
comme la quasi-totalité des élites, hein, sauf une petite partie des légitimistes,
Oui.
une petite partie des républicains, parce que tous les républicains à l'époque ne sont pas partisans du suffrage universel masculin, mais une partie l'est. Simplement, ils voudraient, ceux qui le sont souvent, qu'ils soient indirects. Et bien évidemment, les bonapartistes et Louis-Napoléon Bonaparte, eux, sont partisans du suffrage universel masculin, mais une grande partie de la classe politique ne l'est pas. Et donc, on utilise ce qu'on appelle eh bien, le pouvoir, le système représentatif hein, et le suffrage censitaire, c'est-à-dire on est électeur et éligible en fonction d'une quantité, une quotité d'impôts, un pourcentage d'impôts que l'on paie. Et alors justement, un certain nombre de républicains va organiser une campagne des banquets. Nous sommes en 1847 pour élargir le droit de suffrage. Et que fait le roi Louis-Philippe? Très mal conseillé par son ministre Guizot, il interdit le grand banquet qui doit clore cette campagne à Paris, et c'est ce qui va mettre le feu aux poudres. Donc on va tirer sur la foule, il va y avoir des morts, on va promener ces morts dans les rues de Paris, et Paris va se hérisser de barricades, et c'est de là que va sortir la révolution des 22, 23 et 24 février 1848, qui va balayer en 3 jours
En
la
toujours.
monarchie et le roi Louis-Philippe.
C'est ça qui est très, très étonnant, c'est qu'en 3 jours, le régime soit balayé. C'est Louis-Philippe qui n'a pas voulu tirer sur la foule, qui a refusé
Oui.
la violence, ou au contraire, c'est le peuple des faubourgs, les étudiants qui ont tout submergé. Quelle est la cause de cette défaite? C'est
Alors
là où c'est
vous avez
surprenant.
entièrement raison, Thierry. Merci de le signaler parce que faut pas noircir les choses. Le roi Louis-Philippe aurait pu chercher à résister. Comme on l'avait fait sous la Révolution française, il ne l'a pas voulu. Il n'a pas voulu tirer sur son peuple. Et il a préféré. Alors, essayer de promouvoir, déjà appeler au pouvoir de nouveaux ministres, ça a capoté, ça a échoué très vite. Dans un deuxième temps, abdiquer en faveur de son petit-fils, qu'on appelait le comte de Paris, parce que son fils aîné était mort tragiquement quelques années plus tôt. Lui était une vraie tête de politique, hein, Louis-Ferdinand, duc d'Orléans. Malheureusement, il est mort tragiquement dans un accident de cheval. Et il a abdiqué en faveur de son petit-fils. Une régence, mais là, les députés n'en ont pas voulu, et voyant cela, il s'est effacé. Il est parti en exil en Angleterre. Et il n'a pas voulu résister en envoyant l'armée pour tirer sur la foule.
Que le gouvernement n'hésitera pas à faire quelques mois plus tard.
Exactement. Le
Le
gouvernement républicain,
gouvernement républicain n'hésitera
en
pas,
juin
lui, à
48.
se défendre en tirant sur la foule.
Bien sûr. Arguant du fait qu'il a la légitimité. Arguant du fait également qu'il vient de faire, avec l'aide du peuple, la révolution en février, et ce n'est pas pour détricoter ce qu'on avait
Oui.
fait en février, de le détricoter en juin.
Alors
Donc ça, c'est
oui.
un événement tragique de notre histoire, et très longtemps occulté, parce que vous comprenez, là je pense que vos auditeurs vont très bien comprendre, ça va leur parler, la Commune. dans un grand récit de gauche, c'est bien, parce que ce sont des conservateurs qui font tirer sur le peuple, et en plus un peuple patriote, hein,
Oui.
un peuple qui ne veut pas qu'on
Oui.
signe la paix avec les Allemands.
Oui.
Donc, dans un grand récit de gauche, c'est merveilleux. Donc, les communards, on va les mettre sur un piédestal. Seulement, les résistants de juin 48, c'est un petit peu gênant, parce que ce sont des gens du peuple sur lesquels un gouvernement républicain modéré fait tirer. Alors là, ça rentre pas trop dans le récit républicain. Donc ce grand massacre de juin 48, on l'a pendant très longtemps occulté.
C'est vrai qu'on
Il y
en
a autant de
parle,
morts,
ouais.
il y a autant de morts que sous la Commune, hein.
Ah bon?
Ah bah oui.
Ah oui, en
Ah bah oui.
effet.
Autant de déportés, autant de morts, hein. Bah bien sûr.
Autant de déportés aussi. Ah oui, c'est
Ah
très impressionnant.
oui, on est à plus de 2 dizaines de milliers de morts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein.
Ah oui.
Ah oui, c'est un événement majeur de l'histoire de
Alors
France, hein.
nous allons parler bien évidemment de cet événement pour comprendre en effet son ampleur. Alors là, pour le coup, c'est vraiment occulté, hein, cette,
Oui.
le mettre sur le même plan que les victimes, le nombre des victimes de la Commune, ça donne un tout autre regard sur cet événement. Et au Père-Lachaise, il n'y a pas de monument à ces victimes-là. Il n'y a pas de... Si, il y a quelque chose...
Non, 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 parce que c'est pas au Père. Si vous voulez, pourquoi au Père Lachaise? Parce qu'au Père Lachaise, vous avez ce qu'on appelle le mur des
C'est
fédérés,
ça, le dernier
où,
endroit.
quand les Versaillais ont repris Paris, ils ont aligné. Bah, il faut dire la vérité. Hein. Moi, je
Oui.
suis pas à défendre une mémoire contre une autre.
Bien
J'essaie de
sûr.
dire la vérité historique. Alors, on n'est jamais complètement objectif, mais on essaie de l'être quand même. Et donc, en fait, les Versaillais, quand ils ont repris Paris, ils n'ont pas fait de quartier. Donc, ils ont aligné les derniers résistants, les derniers communards contre un mur, et ils ont fusillé. C'est pour ça que c'est mythique, si vous voulez, à gauche, ce mur des fédérés et ce cimetière du Père-Lachaise. Alors, pour juin 48, ça s'est fait partout dans l'Est parisien, sur les barricades, le long des murs des maisons, etc. Il n'y a pas un lieu comme ça identifié.
Quel était le rôle de Lamartine et des autres dirigeants politiques au moment de ces journées insurrectionnelles? Vous écrivez dans l'éclairage sur Lamartine, c'est lui qui a sauvé le drapeau tricolore
Oui,
contre
alors ça, c'est un
le
peu
drapeau rouge.
antérieur, si vous voulez.
Y
Oui.
a-t-il eu un risque réel de basculer lors de ces journées vers une révolution qui aurait été beaucoup plus grave, beaucoup plus violente, beaucoup plus marxiste en quelque sorte?
Non, non, non,
Non.
franchement, je ne crois pas. Il y a eu d'autres journées insurrectionnelles qui ont précédé juin 1848, mais si vous voulez, ça aussi je l'ai montré dans mon livre sur les élites, il n'y avait pas vraiment de tête. C'est ça la particularité de juin 1948. Il n'y a pas d'intellectuels de gauche qui sont sur les barricades. De grandes figures parlementaires, des généraux, on pense par exemple à Rossel, hein, pour les communards. Il n'y a rien de tel, c'est-à-dire que les pauvres gens du peuple, ils sont tout seuls et ils ont les élites de l'autre côté, y compris républicaines, qui leur tirent dessus. Pourquoi? Parce que ceux qui auraient pu être les têtes d'un mouvement révolutionnaire ont été arrêtés avant dans des journées insurrectionnelles précédentes. Donc, ils se soulèvent parce qu'ils n'en peuvent plus. On vient de leur interdire les ateliers nationaux qui les employaient. Donc, ils vont se retrouver au chômage. C'est la misère noire et c'est ce qui les pousse à ériger leur barricade. Mais si vous voulez, il n'y a pas de tête à ce qui aurait pu être une révolution. Et donc, c'était que condamné, je dirais, à échouer juin 1848. En plus, toute la province, les paysans sont extrêmement inquiets de ce qui se passe à Paris. Et on va envoyer les gardes nationaux venus de province pour écraser les Parisiens. Donc, si vous voulez, c'est les ouvriers, le prolétariat parisien contre tout le restant de la France. Élite et couche populaire du restant de la France.
Parce que le restant de la
Complètement
France
isolé.
soutenait plutôt le gouvernement de Louis-Philippe, parce que les gardes nationaux auraient pu
Alors, non,
empêcher la
parce
chute de
que.
Louis-Philippe, ou c'est...
Non, ben non, non.
Non.
D'ailleurs, la garde nationale bascule en février 48 parce que
Non,
le
mais la
vrai
garde de
problème.
province, je parle de ceux qui sont
Ah,
envoyés. Oui.
oui, alors c'est compliqué. Là, c'est pareil, je ne peux pas refaire l'histoire. Disons que
Oui.
c'est Paris qui a fait la révolution en février 48, mais il n'y avait pas un unanimisme des gardes nationaux en février 48 pour soutenir Louis-Philippe, comme il y avait un unanimisme des gardes nationaux en juin 48 pour écraser le peuple. Je
Oui.
m'explique. Pourquoi? Parce que, en fait, Louis-Philippe et Guizot avaient en grande partie désarmé les gardes nationaux les plus populaires. Là encore, on revient avec ce fameux suffrage censitaire, si vous voulez. Donc, les gardes nationaux n'étaient pas populaires, n'étaient pas si populaires que cela, enfin, issus des couches populaires, j'entends par cela, en février 48. Et puis, il y avait celle des quartiers populaires, celle des quartiers qui ne l'étaient pas. Et une grande partie des gardes nationaux des quartiers populaires se sont retournés, en fait, contre le pouvoir royal. Ça a joué un rôle fondamental dans le lâchage du régime et dans le succès de la révolution. On n'a pas du tout ce phénomène-là en juin 48, où c'est tout le monde contre le peuple des
Donc le peuple
barricades.
parisien, c'est oui.
Voilà.
Alors revenons donc aux événements de février 1848. Comment était constitué le gouvernement provisoire?
Ça nous ramène à Lamartine, c'est-à-dire que, et là c'est un peu contre-intuitif, dans ce gouvernement qu'on appelle le gouvernement provisoire de la République française, que j'ai étudié dans un autre livre collectif que j'avais sorti en 2024, c'était un travail de 25 ans en fait, avec 120 collègues, on en fait le portrait robot. Et vous avez, alors pour la première fois de l'histoire de France, un ouvrier qui siège dans ce gouvernement. C'est l'ouvrier Albert, comme on l'appelle, hein, mais en fait, on a besoin d'un nom d'ouvrier pour séduire le prolétariat, mais il n'a pas de réel pouvoir. C'est un peu, si vous voulez, une figure symbolique. Vous avez un socialiste, vous l'aviez cité tout à l'heure avec la citation de Karl Marx, qui s'appelle Louis Blanc, qui est dans le gouvernement. Vous avez des journalistes républicains, et puis vous avez des figures de gauche ou du centre qui se rallient à la République, mais qu'on appellera les républicains du lendemain. Parce que la veille de la Révolution, ils n'étaient pas républicains. Ils se rallient pour certains par opportunisme, ou bien encore parce qu'ils estiment que c'est le sens de l'histoire. Et donc, quelques noms. Vous avez Adolphe Crémieux, par exemple. Notez au passage que c'est le premier juif à entrer dans un gouvernement français. Il devient ministre de la Justice. Ou bien encore Lamartine, qui n'est pas républicain, mais Lamartine est très intéressant pour ses collègues, parce que c'est le meilleur orateur de l'époque. C'est un poète qui a acquis une célébrité immense. Il est très, très populaire pour ses poésies. Tous les membres de l'élite les connaissent par cœur et les récite entre eux. Et puis, c'est un orateur absolument phénoménal et c'est un homme charismatique. Donc, il prendra le ministère le plus prestigieux en février 48. Il sera ministre des Affaires étrangères.
Alors, quelles sont les mesures prises par ce gouvernement provisoire? Vous écrivez à ce sujet, le gouvernement adopte un nombre impressionnant de réformes politiques, économiques et sociales. Il les adopte avant les élections législatives qu'il va provoquer.
Oui,
Oui.
oui,
Alors,
oui.
quelles sont-elles? Parce que vous écrivez qu'elles sont
Il les
c'est
adopte par
impressionnant.
décret. Il les adopte par décret. Alors, nous évoquions tout à l'heure l'abolition de l'esclavage. Ça n'est quand même pas
Oui.
rien. Le roi Louis-Philippe avait commencé à le faire dans les domaines de la couronne au milieu des années 1840, mais les esclaves des domaines de la couronne étaient très peu nombreux et la masse des esclaves en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en fait, ont été libérés par ce fameux décret de Victor Schœlcher. Donc ça, c'est la première chose. La création du suffrage universel, mais j'ajoute masculin, comme on le dit aujourd'hui, parce que bien évidemment, enfin bien évidemment, au regard de l'époque, attention, hein, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, uniquement les hommes votent. Il faut bien comprendre ce que ça signifie. Je vous disais tout à l'heure, 246 000 électeurs dans le cadre du suffrage censitaire de la monarchie de juillet. On passe d'un trait de plume avec le décret des 2 et 5 mars 1848 à un corps électoral de 10 millions d'électeurs. Hein, tous les hommes qui ont un domicile fixe et qui ont plus de 21 ans, la majorité à l'époque est de 21 ans, deviennent électeurs. Donc on multiplie par 46. 46, le corps électoral. C'est une mesure phénoménale. On abolit les dettes des plus pauvres, on abolit le marchandage, on réduit la durée de travail quotidien des ouvriers, etc., etc. Il y a un train de mesures absolument phénoménal, qui est pris. Je reviens à Lamartine. Alors ça, c'est pas un
Oui.
décret, c'est à son verbe qu'on le doit. Le peuple vient réclamer le remplacement du drapeau tricolore par le drapeau rouge. Et celui qui a sauvé le drapeau tricolore en disant « Le drapeau rouge n'a fait que le tour du champ de Mars dans un massacre de 1791. Le drapeau tricolore, il était lyrique, Lamartine, a fait le tour du monde. Ouvrier révolutionnaire qui venait réclamer le drapeau rouge, vous devez conserver avec nous le drapeau tricolore. » Donc il a sauvé en fait le drapeau tricolore.
Vous écrivez aussi que l'État est au bord de la banqueroute à ce moment-là, ça c'est avant les élections, il y a une augmentation sans précédent des impôts, et notamment le fameux impôt des 45 centimes
oh là là,
qui va provoquer un certain nombre de révoltes d'ailleurs en France. Ça c'est bien avant les élections, hein. On est dans le gouvernement provisoire.
Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'on est au bord de la banqueroute. C'est l'une des causes multiples qui ont occasionné la chute de Louis-Philippe. Et les Républicains, très courageusement, vont prendre une mesure impopulaire. Ils vont décréter ce fameux impôt des 45 centimes. Alors, impôt des 45 centimes, ça ne parle pas, mais vos auditeurs vont tout de suite comprendre. C'est la plus forte augmentation de toute l'histoire de France et peut-être, allez, on va dire, peut-être des 50 de toute l'histoire de l'humanité. Et oui, en 1848 en France. Je m'explique. Chaque franc d'impôt est grévé d'une augmentation de 45 centimes, c'est-à-dire une augmentation de 145%. Imaginez. Et bien évidemment, dans les campagnes, quand les collecteurs d'impôts vont arriver pour lever cet impôt, il va y avoir des révoltes. Ça va rendre le gouvernement républicain extrêmement impopulaire. Dans un département comme la Creuse, il va y avoir plusieurs morts. Et celui qui va en porter le chapeau, eh bien, là je fais un bond dans le temps,
oui.
C'est lorsqu'à la fin de l'année 48, on va élire un président de la République. Le général Cavaignac, qui était l'héritier de ce gouvernement provisoire, il était ministre de la guerre, puis à la faveur de l'insurrection de juin, parce qu'il est celui qui l'avait réprimé, le chef du pouvoir exécutif républicain, eh bien, on lui imputait l'impôt des 45 centimes. Donc, Louis-Napoléon Bonaparte, c'était pain béni pour lui. Lui n'avait pas exercé le pouvoir et est beaucoup plus populaire. Quand vous n'exercez pas le pouvoir, c'est un atout par rapport à quelqu'un qui est en charge de l'État.
Alors, bah, nous allons parler, bien sûr, des élections présidentielles. Après avoir parlé d'abord de l'élection à l'Assemblée nationale, et puis qui a écrit cette constitution, cette nouvelle constitution qui aboutira donc à l'élection présidentielle. Cet impôt, ces 45 centimes, cette augmentation de 145%, on ose imaginer ce que ça serait pour nous, déjà qui sommes surimposés. 145% d'impôt en
non,
plus.
Mais attendez, regardez les bonnets rouges et les gilets jaunes.
Oui.
Alors, bon, là, moi, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que ce qui n'était pas le cas au milieu du 19e siècle, vous le savez, nous sommes sur le podium mondial du pourcentage
oui.
du prélèvement fiscal en part du PIB avec les pays scandinaves.
Oui.
Et notre État-providence ne fonctionne plus, nous le savons tous. Donc, si vous voulez, il suffit aujourd'hui d'une goutte d'eau, j'exagère un peu en disant une goutte d'eau, mais d'un nouvel impôt impopulaire et on a tout le monde dans la rue. Mais à l'époque, on n'en est pas là. La part de prélèvement est beaucoup moins forte. Mais par contre, l'iniquité, je dirais, de l'impôt des 45 centimes, c'est un cas unique. Hein. Il n'y a pas de précédent.
Pour vous, c'est la cause de la défaite de Cavaignac ?
Non,
ce n'est pas la cause principale.
Mais ça lui a fait perdre, à mon avis, quelques centaines de milliers de voix.
Mais
le
pas
déficit
le...
était trop grand par rapport à Louis-Napoléon. Je vais vous rappeler les chiffres, vous allez voir, ils sont phénoménaux. C'est bien évidemment la légende napoléonienne. Le neveu, hein, il est le neveu quand même de Napoléon Ier, Louis-Napoléon Bonaparte.
Oui.
Et puis, deuxième élément, il utilise une propagande d'une modernité absolument inouïe, parce qu'il a été voir aux États-Unis comment se passait les premières campagnes au suffrage universel. Donc, il a un atout sur ses concurrents. Il a beaucoup d'argent pour mener sa campagne. Et puis, là, ça nous ramène à notre campagne présidentielle d'aujourd'hui, de 2026-27, c'est-à-dire qu'il bénéficie d'un très bon positionnement par rapport au corps électoral et d'une attente, puisque sur la partie centrale et droite de l'échiquier politique, il n'y a personne. Donc, il va être le candidat de toute cette partie de l'échiquier politique, là où, à gauche, il y a un encombrement de candidats. Donc, une division des voix. Ça aussi, ça joue un rôle considérable dans son succès.
Oui. Éric Rousseau, nous devons faire une petite pause de quelques instants pour écouter un message de la radio suivi de quelques notes de piano le rondo à la Turca de Mozart. Surtout, vous restez bien en ligne, nous vous reprenons après ce court intermède pour évoquer justement les élections législatives.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir de recevoir en direct Éric Anceau à l'occasion donc de la publication de cette somme, Nouvelle Histoire de France aux éditions Passé Composé. Il y a 100 chapitres, 100 historiens, plus de 1000 pages qui écrivent cette histoire de France de Vercingétorix jusqu'aux Jeux Olympiques de 2024. C'est à la fois de l'histoire chronologique, mais aussi de l'histoire thématique. Éric Anceau, nous vous recevons donc avec grand plaisir. Nous sommes très sensibles à votre présence parce que vous avez le droit d'être fatigué, hein, fatigué par notamment le décalage horaire, certainement une nuit blanche dans l'avion, hein, puisque vous revenez de la belle province où vous veniez justement présenter votre livre, cette nouvelle histoire de France, que vous avez donc piloté, défini, coordonné, mais vous en avez aussi écrit un certain nombre de chapitres. Ces chapitres correspondent bien sûr à votre spécialité, parce que vous êtes aussi professeur des universités et vous êtes un spécialiste très reconnu donc de tout ce qui touche à l'Empire, mais aussi enfin l'Empire, à Napoléon III et à la Deuxième République. Et ce soir, vous venez nous parler de cette Deuxième République, une période assez courte de notre histoire, à peine 3 ans, mais importante. Et vous avez expliquer dans cette première partie d'entretien les causes de la chute de Louis-Philippe, de la monarchie de Louis-Philippe, cause qui en 3 jours d'insurrection provoque le départ du roi, la formation du gouvernement provisoire qui prend, vous nous l'avez expliqué, de nombreuses mesures. On pense par exemple à l'abolition de l'esclavage, mais aussi pour rétablir la santé financière, une hausse considérable des impôts, une hausse historique mondiale, record mondial de hausse d'impôts, 145% d'impôts en plus, parce que la France est en faillite. Et ce gouvernement provisoire, eh bien, va naturellement provoquer des élections législatives, parce que l'Assemblée doit doter la France d'une constitution. Je vous propose de reprendre là. Effectivement, que disent les élections législatives et quelle constitution va-t-elle donc bâtir?
Oui, alors juste avant, mais je vais bien évidemment répondre à votre question, elle est tout à fait fondamentale, parce que je voudrais que vos auditeurs aient une vision complète. La devise républicaine actuelle, qui porte 3 valeurs, hein, vous le savez, la liberté, l'égalité, la fraternité, devient la devise véritablement de notre République sous la Deuxième République. C'est l'un des legs fondamentaux de cette République à la France et au monde. C'est-à-dire que sous la Révolution française, Première République, cette devise existait déjà, mais elle était concurrencée par d'autres. La nation, la loi, le roi, la liberté ou la mort, etc., etc. Et donc là, elle s'impose comme la devise républicaine. Donc ça méritait d'être ajouté à tout ce qu'on a dit avant. Alors, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'en avril 1848, on élu pour la première fois au suffrage universel masculin, une assemblée, et tout le monde se dit républicain, parce que c'est dans l'air du temps. On ne sait pas comment les choses vont tourner, il faut se mettre dans la tête des contemporains. Certains ont très peur de se faire trucider comme avaient pu l'être leurs arrière-grands-parents ou leurs grands-parents pendant la Révolution. Donc, il vaut mieux se dire par sécurité républicain. D'autres agissent par opportunisme, d'autres par conviction. Et donc, c'est très, très dur de voir quelles sont les véritables idées de la majorité qui se dégage. Alors, on essaie de le faire. Comment a-t-on fait dans cette enquête et le livre dont je vous parlais, qu'on a fait sortir avec des collègues en 2024? On a regardé les votes de ces hommes une fois qu'ils étaient élus. Parce que leur profession de foi, encore une fois, ne parle pas. Là, on est parti des votes. Et on se rend compte que beaucoup votent très conservateurs. Et alors, ils vont voter de plus en plus conservateurs qu'il y a les événements de juin. Et beaucoup des mesures que nous citions tout à l'heure vont être rapportées par des décrets et par des lois qu'ils vont voter. Donc, si vous voulez, on passe à une république conservatrice, alors qu'à la base, on est une république qui est démocratique et sociale. Et c'est dans le contexte de cette république conservatrice post-journée de juin, insurrection de juin, que la Constitution va être définie. Une constitution qui va être très très longue à rédiger, rien à voir par exemple avec ce que fera Louis-Napoléon Bonaparte au lendemain de son coup d'État du 2 décembre 1851, ça va aller très vite, ou rien à voir avec ce que fera le général de Gaulle et Michel Debré en 1958. Ça va très vite, ça prend un été. Là, ça va prendre la fin du printemps, ça va prendre tout l'été. Ça va prendre le début de l'automne. Imaginez que c'est seulement le 4 novembre 1848 que la Constitution est promulguée. Alors, cette Constitution, en deux mots, c'est une Constitution que j'ai qualifiée de bâtarde. Pourquoi ? Parce qu'on veut tout mettre dedans. On met, sur le modèle américain, un président qui est élu pour 4 ans mais qui ne peut pas se représenter. Ce président, imaginez, il est élu à 2 tours de scrutin. Au premier tour de scrutin, on a beaucoup de mal déjà à se mettre d'accord sur la manière dont on va utiliser le scrutin, mais au premier tour de scrutin, c'est le peuple qui choisit. Simplement, les députés font le calcul suivant, personne n'aura la majorité. Et donc, dans un deuxième temps, on se sera donné le bon rôle, on aura donné la parole au peuple, et dans un deuxième temps, la main nous reviendra, et c'est nous qui choisirons parmi les 2 candidats arrivés en tête au premier tour, celui que nous voulons. Et donc, un scrutin universel, suffrage universel, indirect, c'est très important. En fait, ce qui va se produire, c'est que dès le premier tour, Louis-Napoléon Bonaparte va plier le match, hein, puisqu'il va être élu par 5,5 millions de voix sur un corps électoral de 9 millions et 7,5 millions de votants. Donc, une majorité phénoménale, tous les autres candidats sont derrière. Une assemblée là-dedans qui est dotée de très grandes prérogatives, mais qui ne peut pas révoquer un président qui se comporterait mal, comme le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée. Donc des pouvoirs, si vous voulez, qui n'ont aucune prise l'une sur l'autre. Et c'est ça qui va nous conduire en fait à l'impasse du coup d'État. Parce que l'Assemblée va donner une majorité, lorsqu'elle va être élue au printemps 1849, de monarchistes, de royalistes, hostiles au président de la République.
Donc l'assemblée suivante après cette assemblée constituante, exactement, les élections suivantes, hein, produisent effectivement là pour le coup des députés qui sont élus et qui se disent clairement donc monarchistes, alors que oui. Louis-Napoléon Bonaparte a été élu dès le premier tour.
Oui.
Parce qu'il est le neveu de Napoléon. C'est très contradictoire comme,
mais oui,
comme
alors,
résultat.
Alors, j'ai appelé cette République, alors la Constitution, je l'ai appelée une constitution bâtarde, et la République, je l'ai appelée une République paradoxale.
Très paradoxal.
Ah
oui,
non, mais c'est incroyable. Mais ça se renouvellera, vous le savez, nos compatriotes ne le savent pas, dans les années 1870. Hein, jusqu'à 1879, on a une République à la tête de laquelle se trouvent des monarchistes. Et c'est exactement le cas. Le président est bonapartiste, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. La majorité de l'Assemblée législative est royaliste, composée d'orléanistes, partisans de Louis-Philippe, et de légitimistes, partisans de la branche aînée des Bourbons. Et le gouvernement sur lequel s'appuie le président, le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte, est composé de monarchistes et de quelques bonapartistes. Il n'y a pas de républicains dans les institutions. Et pourtant, c'est une république. Donc, dans ces conditions, ce n'est pas étonnant qu'elle fasse long feu et qu'au bout de 3 ans et demi, elle prenne fin.
Alors, nous allons effectivement en parler. Pour que cette constitution soit modifiée, il faut la majorité des 2/3 de l'Assemblée, c'est ça ?
Ah ben, il faut non seulement la majorité des 2/3, mais il faut un grand nombre de votes réitérés à 6 mois d'intervalle. Donc, non seulement il y a la difficulté d'obtenir la majorité, la complexité du processus électoral et la durée, si vous voulez, qui fait que beaucoup se disent, ben, en cours de processus, on va agir par un coup d'État plutôt que d'attendre que le processus arrive à terme.
Oui.
Donc, tous ces éléments ben, font que, en fait, on a donné encore une fois des bâtons pour se faire battre. Les Républicains de 48, le verre était dans le fruit, je dirais, dès l'origine.
Alors, les monarchistes n'avaient pas de candidat à la présidentielle à opposer.
Alors,
il y a Cavaillac et Louis-Napoléon. Il n'y avait pas de candidat monarchiste qui aurait pu.
Non, alors parce qu'Adolphe
tout le monde d'accord.
Adolphe Thiers aurait pu être candidat. Adolphe Thiers, c'est l'un des derniers chefs de gouvernement du roi Louis-Philippe.
Oui.
Mais Adolphe Thiers se sait impopulaire. Et donc, il juge beaucoup plus habile de pousser, comme une grande partie des monarchistes réunis dans ce qu'on appelle à ce moment-là, décembre 1848, le Parti de l'Ordre, un candidat qui, à leurs yeux, va être un pantin. On prête, alors la formule est apocryphe, mais l'idée y est, on prête à Thiers la formule suivante, Louis-Napoléon Bonaparte, c'est un pantin que l'on mènera, que l'on manœuvrera dans son dos. Sous-entendu, il est complètement idiot. Et bien non, il n'est pas idiot, c'est lui qui va manipuler les autres.
Ouais.
Le problème est là.
On a souvent vu dans l'histoire hein, ce genre de raisonnement.
Ah ben oui, ben oui, exactement.
Dans une histoire plus récente et encore plus dramatique. Mais alors, j'aimerais vous interroger, Éric Anceau, sur la répartition des pouvoirs, pour bien comprendre la situation. Nous avons donc une élection présidentielle, avec l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, une majorité absolue dès le premier tour, grâce à une campagne exceptionnelle hein, qu'il a su mener. Face à Cavaillac, Cavaillac est impopulaire parce que d'abord il a eu répression effectivement des journées de juin, et puis nous l'avez expliqué, l'augmentation des impôts. Je ne sais pas si la situation économique s'est améliorée depuis.
Pas vraiment.
Pas vraiment.
Alors, il y aura un retournement de conjoncture, alors lié aux mesures prises par les Républicains, mais aussi à une amélioration du contexte international, mais qui interviendra plus tard. Et si j'ose dire, c'est tout le cynisme des choses. Ça commença vraiment à s'améliorer en 1851-52. Et donc, c'est l'auteur du coup d'État qui va en bénéficier.
Qui va en bénéficier, oui.
Mais je m'empresse d'ajouter, qui ensuite va prendre des mesures économiques majeures. Et il va accompagner, parce que ce n'est pas tout de bénéficier d'une conjoncture. On a vu dans notre histoire des gens qui en bénéficiaient et qui ont tout saboté, sabordé. Lui, il saura utiliser la conjoncture pour développer l'économie française.
Mais
il a eu cette chance.
Pour revenir aux élections législatives de mai 1849, qui succèdent donc aux élections présidentielles de décembre 1848, remportées par Louis-Napoléon Bonaparte. L'Assemblée qui en est issue, c'est celle qui voit le triomphe du Parti de l'Ordre, le grand gagnant des élections. Le Parti de l'Ordre, vous nous avez expliqué, ce sont avant tout des monarchistes qui veulent de l'ordre. Mais cette Assemblée n'aurait pas pu élire, conformément à l'élection présidentielle, des députés bonapartistes.
Alors, le problème, c'est que
c'est pas très logique.
Les bonapartistes n'ont pas été aux affaires depuis 1815.
Oui.
Donc, ils ne sont plus là, ils sont morts. L'espérance de vie à l'époque est plus réduite. Alors, il y a quelques vieux croutons, si j'ose dire, du consulat et de l'Empire, mais ils ne sont pas majoritaires. Et en plus, le roi Louis-Philippe les avait nommés à la Chambre des Pairs. Ils s'étaient ralliés au régime et ils sont complètement discrédités parce qu'ils ont servi le roi Louis-Philippe. Donc ça, c'est le premier élément. Mais bien évidemment, il y a aussi de l'opportunisme de ce côté-là et va se constituer ce qu'on appelle le Parti de l'Élysée. Parti de l'Élysée, ce sont des bonapartistes en quelque sorte spontanés. Ils ne l'étaient pas avant que Louis-Napoléon Bonaparte devienne président de la République, mais ils vont là où le vent semble tourner. Simplement, ils ne sont pas majoritaires. Les majoritaires dans ce Parti de l'Ordre, c'est principalement des orléanistes, hein, partisans de Louis-Philippe, des légitimistes, partisans de la branche aînée des Bourbons, et on l'oublie, et ils sont là, quelques républicains extrêmement conservateurs. Il y en a quelques poignées, quelques dizaines. Et dans cette assemblée, il n'y a quasi plus de républicains modérés. Ils ont été laminés par ce qui s'est passé en 48. Par contre, vous avez Aujourd'hui, les héritiers sont en quelque sorte les mélenchonistes, la France insoumise. Vous avez une extrême gauche qu'on appelle la Nouvelle Montagne ou encore les Rouges.
Ce qu'évoquait Marx dans la citation au début de...
Oui, alors simplement, ils ne sont pas marxistes, hein, ils sont républicains,
oui.
Socialistes.
Mais c'est Marx qui les évoque dans cette citation que nous avons lue au début de l'entretien.
Exactement. Oui. Alors, ils suivent le Dreux-Rollin. Le Dreux-Rollin, c'est un petit peu leur héros à la plupart d'entre eux. Et le Dreux-Rollin va faire une faute politique, il va se laisser entraîner dans une insurrection dont les conservateurs vont profiter pour les éliminer. C'est-à-dire, ils vont être incarcérés, certains vont s'enfuir à l'étranger. Et du coup, cette masse de députés, si vous voulez, qui... Alors, ils n'étaient pas majoritaires, hein, mais ils étaient plus d'une centaine sur 750 députés. Ils vont être éliminés également. Donc, le Parti de l'Ordre va être ultra majoritaire à partir du printemps 1849.
Cette insurrection qui nous permet d'éliminer la part gauchiste de l'Assemblée nationale, ce n'est pas celle de juin, c'est après, hein.
Ben, c'est pile un an plus tard.
C'est
juin 1849.
Oui.
Alors, je vous en donne la cause. Hein.
Oui.
Il y a des insurrections partout. Hein. C'est ce qu'on appelle le printemps des peuples, 1848-49.
Oui.
Et l'extrême gauche reproche au président et à la majorité de l'Assemblée de ne pas soutenir les insurgés étrangers. Parce qu'à l'époque, il y a un mythe. La France est à l'avant-garde du monde et elle doit soutenir les peuples opprimés. Et en particulier à Rome, il y a une république qui s'est mise en place. Le pape a été chassé. Louis-Napoléon Bonaparte et la majorité de l'Assemblée veulent rétablir le pape sur son trône, alors que l'extrême gauche, vous en doutez, souhaite qu'on soutienne plutôt les républicains. Donc ils manifestent dans la rue, ça dégénère et on les élimine.
Quels sont les pouvoirs des... On a compris qu'il y avait donc deux grandes forces, celle à l'Assemblée nationale avant tout monarchiste, et puis celle... du président Louis-Napoléon Bonaparte, qui pense bien sûr à la suite, au minimum se représenter et puis certainement envisager prendre le pouvoir. Quels sont les pouvoirs des uns et des autres? Est-ce que Louis-Napoléon Bonaparte peut gouverner comme il l'entend ou doit-il choisir ses ministres dans le parti le plus important de l'Assemblée? Comment se répartissent ces pouvoirs, Éric Anceau?
Non, alors là, c'est une République très, très différente. Il faut se départir des schémas qu'on a de la 4e République ou de la 5e République. Je vous explique en quelques mots. Déjà, c'est la seule fois où dans notre histoire, il y a eu un vice-président, il faut le savoir, sur le modèle américain. Il s'appelle Boulet de la Meurthe. On n'a pas renouvelé l'expérience. Un vice-président qui remplace le président quand il est empêché ou qui peut présider l'Assemblée. Donc ça rappelle, vous voyez, furieusement les États-Unis d'Amérique encore aujourd'hui. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le président, c'est l'une de ses prérogatives, peut ne pas choisir un gouvernement représentatif de la majorité parlementaire. Alors, au début, il le fait, et puis très vite, il ne va pas le faire, et ça va accentuer encore le blocage des institutions. Parce que lorsque le président et son gouvernement veulent prendre un projet de loi, eh bien le projet de loi n'est pas voté par la majorité. Donc vous voyez, ça crée une crispation très très forte. Le président, ses actes sont contresignés par un ministre. Donc en plus, le président et le gouvernement ne sont pas fusionnels. C'est-à-dire que comme il y a très peu de bonapartistes à l'époque, le président doit composer avec des monarchistes. Et il est arrivé que lorsque le président prenait une mesure, eh bien, il n'y avait aucun ministre qui acceptait de la signer. Et donc, elle ne pouvait pas être promulguée. Ce qui faisait que le président démettait son gouvernement. Donc, tout ça pour vous dire, pardonnez-moi le terme, que c'est l'anarchie, c'est le foutoir le plus complet.
Voilà. Et l'initiative des lois était de part et d'autre, président et assemblée.
Alors, pouvoir exécutif, alors parce qu'il n'y a pas que le président, le gouvernement, hein, à l'époque, on ne dit pas gouvernement, on dit le ministère ou le cabinet. Le cabinet, le ministère peut proposer des lois, ça s'appelle dans ces cas-là des projets de loi, comme aujourd'hui, quand ça émane du pouvoir exécutif. Et l'Assemblée nationale législative a la faculté également de proposer des textes de loi que là, on appelle des propositions de loi. Il y a les deux, tout à fait.
Mais pour qu'une loi soit validée, il faut qu'elle soit... et contresigné par les ministres, et voter par l'Assemblée.
Et oui,
il faut
oui,
les deux.
Comme ils ne sont pas d'accord, bon, il y a peu de. Alors, il y aura, attention, il y a quand même des lois qui vont être votées pendant la République.
Alors, justement, c'est ma question. Quelles sont les lois principales qui ont été votées? Parce que...
Oui, alors, il y en a quelques-unes. Je vais vous en donner deux. Il y a la plus grande loi française à l'époque, hein, depuis toute l'histoire, à l'époque, elle est votée à ce moment-là pour lutter contre l'insalubrité. Il y a eu une grande épidémie de choléra en 1849. Par exemple, le maréchal Bugeaud est mort dans cette épidémie de choléra, mais pas seulement lui, des dizaines de milliers de Parisiens. Et puis, elle est intervenue à Paris, mais aussi dans de grandes villes de province. Et on va donc créer une loi pour lutter contre l'insalubrité des logements et pour l'hygiène publique. Et ça, c'est vraiment la première grande loi de ce type-là. Alors là, bravo. Une loi sur la décentralisation, mais qui va être édulcorée, mais c'est l'une des premières lois de décentralisation en France. Et puis le troisième exemple, et là, ça va parler à vos auditeurs, c'est la fameuse loi Falloux-Barieux, qui est une loi sur l'enseignement primaire. Enfin, la petite loi est une loi sur l'enseignement primaire, et la grande loi, la loi Falloux-Barieux, est une loi sur l'enseignement secondaire. Donc, qui permet à l'enseignement privé de jouir d'un certain nombre de prérogatives. Et donc, il y a des lois importantes qui ont été votées pendant la période. C'est les lois qui faisaient consensus entre le président, le gouvernement et l'Assemblée.
Et
ces lois n'étaient pas majoritaires.
Ces lois que vous évoquez, dont la loi Falloux, sont à l'initiative de Louis-Napoléon Bonaparte. Il peut s'en arroger le mérite ou...
Alors, la loi Falloux, oui, parce qu'en fait, le vicomte de Falloux, c'est lui qui l'avait désigné. Il s'entendait relativement bien au début avec lui. C'était un légitimiste qui siégeait d'ailleurs dans son premier gouvernement, qui était aussi très, très catholique et qui va donc donner un certain nombre de prérogatives au clergé catholique dans les instances de contrôle de l'instruction publique, en fait. Hein, donc, voilà, et c'est pour ça que, par la suite, cette loi a été remise en cause, mais notez-le au passage, jamais complètement abrogée. Hein, c'est une loi sur laquelle on vit en partie, puisqu'on a, vous le savez, un privé sous contrat aujourd'hui, hein, et même un privé hors contrat encore dans notre République, toute laïque qu'elle soit.
Alors, Éric Anceau, nous avons des messages d'auditeurs. Un auditeur qui nous demande quelle était la position de Napoléon III concernant la politique coloniale. Je propose de garder la question lorsque vous reviendrez. En tout cas, je l'espère très vivement. Et les auditeurs aussi, j'en suis persuadé, pour évoquer en effet Napoléon III, tel que vous faites dans ce chapitre de la nouvelle histoire de France que vous dirigez, publiée aux éditions Passé et Composé. Et puis un auditeur qui nous dit qu'il est un descendant d'un marquis, il n'arrive pas à lire le nom, qui était proche d'Édouard VII. Qui a participé à l'entente cordiale et qui estime que les Anglais sont des gentlemen, parce qu'ils ont reçu notamment Napoléon III après la défaite, sa défaite.
Ah ben, voilà. Surtout que Napoléon III a favorisé l'avènement avec la reine Victoria, qui était son amie personnelle, d'un rapprochement, on peut parler en y mettant des guillemets, d'une première entente cordiale sous le Second Empire.
Alors nous en parlerons, en effet. Quand vous reviendrez, Éric Anceau, il nous reste malheureusement que 7 minutes à passer en votre compagnie pour évoquer la fin de cette Deuxième République et sa chute. Nous ne parlerons pas de la manière dont Napoléon, le futur Napoléon III, Louis-Napoléon Bonaparte, mène son coup d'État. Ça fait l'objet d'ailleurs d'un éclairage. C'est intéressant d'ailleurs de voir comment on monte un coup d'État et comment il se déroule. Je vous propose dans ces minutes qui nous restent que vous évoquiez cet affrontement progressif entre Louis-Napoléon Bonaparte et l'Assemblée, quelle forme cela prend-il? Comment cela se développe jusqu'au 2 décembre 1851?
Deux choses, des mesquineries. Par exemple, le chef de l'État a une liste civile qui lui permet de faire des bonnes œuvres, d'entretenir les domaines présidentiels. On a réduit la dotation de la maison du président de la République parce qu'il est détesté par la majorité parlementaire. Donc ça, c'est une petite pique. Mais en fait, le fond du problème, ça nous ramène à la Constitution, c'est la volonté de Louis-Napoléon Bonaparte, qui sait qu'il est très populaire et qu'il sera réélu dans un fauteuil si il en a la faculté,
pardonnez-moi,
de réviser
Éric Anceau,
la Constitution.
Je vous interromps, mais c'est une question que j'aimerais vous poser. Vous dites qu'il est très populaire. Qu'est-ce qui le rend très populaire, ou en dehors du fait qu'il soit le neveu de l'empereur? Est-ce qu'il y a d'autres raisons, notamment dans ses décisions, dans ses actes, dans les lois qu'il a fait passer, ou d'autres lois qu'il a refusées? Qu'est-ce qui le rend, dans le fond, populaire?
Alors, il n'est pas tellement populaire par les lois qu'il a fait passer, parce qu'encore une fois, ce n'est pas lui qui les fait passer. Donc, c'est soit le gouvernement, quand le gouvernement arrive à obtenir le soutien des parlementaires, soit les parlementaires quand ils arrivent à obtenir le contre-sein.
Vous voulez dire par là qu'il n'a pas
les
été à l'origine de lois particulières?
Ah ben non, les lois que je vous ai citées, aucune des trois lois que je vous ai mentionnées, il n'en est l'auteur. Il faudra attendre qu'il ait réalisé le coup d'État pour qu'il prenne vraiment des mesures qui sont de son fait. Ça,
Donc ça,
il faut
oui,
le savoir.
sa popularité, finalement, est assez superficielle, assez subjective.
Oui et non, c'est ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, il capitalise sur l'élection présidentielle et la popularité qu'il avait en décembre 48, mais il est aussi très habile. Parce que bien évidemment, comme il est très moderne dans son approche, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, il profite du fait que le gouvernement et la majorité parlementaire s'entre-déchirent pour survoler un petit peu le débat, et dès qu'il a une prise de parole qu'il peut faire, dire, vous voyez, c'est l'anarchie, si la Constitution me donnait la possibilité de modifier les choses, eh bien, nous n'aurions pas cette anarchie. Il emmène avec lui des journalistes pour aller prononcer des grands discours en province, et je l'ai dit dans plusieurs ouvrages, j'en fais un petit peu l'ancêtre de nos populistes actuels, parce que je cite toujours son discours de Saint-Quentin de l'été 1850, un magnifique discours qu'il prononce devant une foule d'ouvriers, et où il dit à ses ouvriers: mes amis ne sont pas sous les lambris dorés des ministères, donc les élites, ils sont sous le chaume des fermes et dans les ateliers des ouvriers et des artisans. Donc je vous ai compris. Donc il met le peuple de son côté contre les élites. Et c'est bien commode, parce qu'en fait, encore une fois, lui n'a pas à rendre compte de ses actes, étant donné la nature de la Constitution. Alors il va chercher, c'est l'une de ses prérogatives, parce qu'il a nommé les préfets, il a un pouvoir de nomination,
Oui.
a suscité une grande vague de pétitions à travers la France, et il y en aura deux qui recueilleront chacune plus d'un million de signatures, je ne sais pas si vous vous rendez compte dans le contexte de l'époque, pour qu'on révise la Constitution. Simplement, je vous l'ai dit, le processus constitutionnel est tel que ça ne va pas être possible.
Mais comment sait-il en quelque sorte qu'il ne pourra pas atteindre la majorité des deux tiers? Qu'est-ce qui permet de savoir ça? C'est simplement parce qu'on connaît la position de chaque député à
Oui,
l'Assemblée
oui,
nationale, c'est clairement identifié, et on sait
Ah ben
que.
oui. Les votes sont publics et au Moniteur universel, qui est le journal officiel de l'époque, vous avez la liste des noms. Alors, un certain nombre de membres de la majorité un peu plus lucides, comme le duc de Broglie, par exemple, qui est un orléaniste, disait: oh là là, si on braque le président, il va nous faire un coup d'État comme son oncle.
Oui.
Allons dans son sens, essayons de le contrôler, mais allons dans le sens du poil et autorisons, donnons-lui la faculté de se représenter. Donc, les lignes avaient bougé, mais elles n'avaient pas bougé suffisamment à l'été 1851 pour obtenir cette fameuse majorité des deux tiers dont nous parlons.
Et pourtant, il y a des lois qui ont été promulguées, qui ne sont pas forcément de lois populaires, puisque le 31 mai 1850, vous écrivez qu'il y a une loi qui ampute le corps électoral de son tiers le plus pauvre.
Ah ben là, il est très fort, Louis-Napoléon Bonaparte, c'est encore le populisme. Il y est hostile.
Oui.
Il y est hostile, mais il laisse faire. Alors, quand on chipotera, on dira, il a quand même contresigné, hein. Il
C'est
aurait pu
ça,
s'y
ben oui,
opposer.
c'est la question.
Il laisse faire, mais c'est pas lui, il n'a pas mis les mains dans le cambouis, il se contente de mettre sa petite signature. Il n'est pas à l'initiative de cette loi, et la loi a été votée par la majorité monarchiste. On l'appelle, notez-le au passage, la loi Thiers, parce que c'est Thiers qui en était le rapporteur, et Thiers parlera de vile multitude pour qualifier les couches populaires et ceux qu'il faut exclure du droit de suffrage. Imaginez, corps électoral de 10 millions, on ampute ce corps électoral des 3 millions les plus pauvres et les plus instables. Et que fait Louis-Napoléon Bonaparte après? Il s'en sert, puisqu'il fait son coup d'État au nom du rétablissement du suffrage universel masculin dans son intégralité. C'est donc extrêmement commode, habile. Il
Oui.
dit, vous voyez, c'est la majorité contre laquelle je lutte moi-même qui vous a retiré le droit de suffrage, je vais vous le rétablir. C'est la première mesure que je vais prendre après mon coup d'État.
Et puis aussi la loi sur la presse qui crée de nouveaux délits, dont celui d'offense au président.
Oui. Alors ça,
Ça, on ne le
ça,
reproche pas non plus.
Non, parce que en fait, les choses avaient commencé avant qu'il soit élu, hein, parce que là, il y a un tour de
Oui.
vis. Il y a une très grande liberté de la presse avec les premiers décrets qui sont pris par les révolutionnaires dès février-mars 1848. Et puis après, par d'autres décrets et les premières lois de l'Assemblée avant l'élection présidentielle, on est déjà revenu complètement en arrière. Donc il y a peu de choses qui sont modifiées après.
Eh bien, Eric Anceau, tout est prêt pour la prochaine émission, pour aborder justement le coup d'État de décembre 1851, que je l'espère, vous viendrez nous raconter rapidement, et que tel que vous d'ailleurs, vous l'évoquez dans ce chapitre consacré à Napoléon III, dans cette magnifique nouvelle histoire de France que vous dirigez, publiée aux éditions Passé Composé. Merci beaucoup à vous, Eric Anceau. Je vous souhaite vraiment
Merci Thierry.
un bon repos. Un bon repos, vous n'allez peut-être pas dormir à cause du décalage horaire, mais en tout cas, je vous souhaite un bon repos et on vous remercie très vivement pour votre présence ce soir en direct. Merci à Stéphane au standard, merci au standard, à la technique, pardon, et à Laurent au standard. Merci à vous tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour votre fidélité. Très bon dimanche soir à vous tous.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Amitiés Françaises dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 12 avril 2026 de 18h à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.